Hamilton, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir, il est dimanche, il est 22h, ou on est dimanche, il est 22h, 22h c'est mieux, et c'est la causerie qui démarre en direct avec ce soir à la technique Clara.
Bonsoir, et Fab au micro.
Bah oui, bonsoir, on n'est que tous les deux, donc voilà, donc comme la semaine dernière, si t'aimes pas ma voix, faut pas rester.
Bon bah je m'en vais alors.
Oh salut, c'est gentil d'être venu, donc voilà, et donc du coup... C'est la causerie, donc lacausericanu@gmail.com, lacausericanu@gmail.com. Si tu as envie de nous contacter, nous parler de ce que tu entends dans l'émission, mais aussi si tu as envie de venir, si tu es une association, une personne qui fait des trucs intéressants, si tu as des choses à dire, ben voilà, écris-nous, puis on voit si ça match, et si ça match, ben, on fait comme sur Tinder, on swipe du bon côté, et on fait une émission ensemble. Voilà. Et sinon, c'est blogs.radiocanu.org/lacausserie, là où tu vas sur radiocanu.org et tu cherches la causerie et tu trouveras le blog de l'émission avec les 470 émissions précédentes. Et ça te permet aussi de nous laisser des commentaires. Et si tu veux nous laisser des commentaires, merci de le faire sur le blog et pas sur Facebook où nous sommes aussi, mais où on répond très peu parce qu'on s'en sert que pour faire de la promo. Parce que c'est un truc socio-commercial. Et on serait presque sur le côté commercial, sauf qu'on n'a rien à vendre et rien à... on gagne pas de sous. Mais, mais disons que c'est pour faire connaître l'émission. Et sinon, eh ben, on est aussi sur les outils de podcast, de balado-diffusion, comme disent nos amis québécois. Et tu nous trouves en tapant la causerie Canu. Oublie pas le Canu, parce que des causeries, il y en a plein maintenant. Et en fait, ben, la seule, l'unique, la véridique, c'est la causerie Canu. Voilà, c'est l'émission que tu es en train d'écouter de l'autre côté du poste. Et on te remercie d'être là parce que c'est dimanche. Bon, en même temps, il fait froid. Donc, tu dois être chez toi sous une couette si t'es sur Lyon. Et ça est bien suffisant et c'est très sympa. Et puis, ben, donc, du coup, ben, je vais démarrer tranquille ce soir par un premier sujet qui, je pense, devrait vous agacer. Donc, ça qui est bien, c'est que figurez-vous qu'on a quand même 17 milliards d'euros qui sont faits sur le dos des chômeurs. 17 milliards d'euros. Alors je vais essayer de vous expliquer le pourquoi du comment. L'UNEDIC se porte en fait très bien. Alors selon le rapport financier de l'UNEDIC, alors l'UNEDIC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la caisse de chômage. C'est là où les sous pour le chômage vont. Et c'est là qu'ils sont gérés. C'est aussi la caisse qui vous verse l'argent. Alors souvent ça passe par les ACEDIC qui sont au niveau local, mais c'est l'UNEDIC qui a tous les sous au-dessus, voilà. Et donc pour l'année 2023, l'UNEDIC annonce qu'elle va présenter un excédent budgétaire de plus de 4 milliards d'euros. Et les années suivantes devraient être au moins du même ordre, voire mieux, avec une année 2025 qui est pointée à plus de 8 milliards d'euros d'excédent. Ce qui porterait sur les 3 ans à venir l'excédent à 17 milliards d'euros. Ça va, c'est sympa quand même. Je vous rappelle que c'est une assurance, le chômage. Donc, on est censé quand même à retrouver ce qu'on met. Sinon, il y a un problème. Mais voilà. Bon. Alors, bien entendu, on peut se demander ce que cela aurait donné si la casse de l'assurance chômage qui a eu lieu. Alors, on en avait parlé dans plusieurs causeries. Hein. Je vous laisse chercher. Vous allez sur le blog, vous tapez chômage. Vous allez trouver toutes les émissions où on en a parlé. N'avait pas été faite. Et si, vous savez, le fait de baisser de quasiment 25% les prestations de l'UNEDIC n'avait pas été mis en place. Eh bien, cela aurait donné en fait un excédent, mais de 10 milliards au lieu de 17. Mais bon, quand même, un excédent de 10 milliards. On n'est pas... Voilà. Donc, on est, dans tous les cas, dans un excédent. Dans des sous en plus, vous voyez. Alors, on a très rapidement entendu le ministre en charge du service après-vente. Hein, j'ai nommé Gabriel Attal. C'est le ministre qu'on envoie sur tous les plateaux pour dire non. Mais vous n'avez pas compris. Donc, voilà. Donc, il est venu nous expliquer que cet excédent allait servir à combler la dette de l'assurance chômage. Oui, parce que l'assurance chômage a une légère dette et qui est notamment liée aux périodes de Covid. Parce que vous savez qu'on a fait payer le chômage partiel qui était donné aux personnes qui ne pouvaient plus aller travailler via l'UNEDIC. Donc forcément, l'UNEDIC se retrouve avec une dette. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une dette de l'UNEDIC, c'est plutôt une dette d'une décision de l'État. Vous voyez ? Bon. Certes, cette dette, elle existe, hein, elle est de exactement 55 milliards d'euros. Voilà, ça, elle est connue, voilà. Mais elle n'est pas en fait remboursable en une seule fois. Alors, je suis allé vérifier hein, quand même, hein. Je vous laisserai faire vos recherches. Comme le semble dire le ministre, tout simplement parce qu'en fait, c'est une dette échelonnée et c'est une dette dite d'État. Et surtout, donc, elle est adossée à une durée. C'est-à-dire que les banques, elles ont prêté parce qu'elles pouvaient savoir qu'elles avaient un remboursement sur X années. Donc, vous n'allez pas leur dire finalement, c'est pas 20 ans, c'est 2 ans. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Donc, c'est donc en fait une sortie assez simplifiée pour dire. Vous inquiétez pas, on va pas garder le pognon. Bon, on va pas vous dire non plus ce qu'on en fait, mais en gros, c'était juste un petit mensonge gentil. Donc, on voit que la vision du chômage, elle est quand même avant tout et extrêmement très politique. Qu'il garde ou pas le pognon, hein, n'empêche pas de remarquer que finalement, la façon dont on indemnise hein, les chômeuses et les chômeurs est bien avant tout politique, bien plus que liée à de réels besoins financiers. Bah oui, encore une fois, si je reviens sur ce que j'ai dit avant, 3 années en excédent, ça veut dire qu'à un moment donné, on pourrait donner des prestations chômage supérieures. Parce que l'UNEDIC n'est pas censé faire des excédents. Donc, voilà. Donc cet excédent hein, qui repose sur le fait, bah, effectivement, que le chômage baisse d'un côté, mais aussi sur la fluctuation de l'euro et sur l'inflation, était en fait finalement en grande partie prévisible. Et la preuve, c'est que l'UNEDIC, ils ont fait un rapport pour le prévoir. Donc, c'est pas un truc qu'ils découvrent. Ça peut arriver du jour au lendemain. Avant même, hein, finalement, que la caisse de l'assurance chômage soit mise en place. Des économistes et des syndicalistes à l'époque, et même quelques politiques, avaient pris le temps de poser les choses et d'expliquer que, bah, en fait, la caisse de l'UNEDIC allait être excédentaire. Mais ils ont été ignorés, car comme souvent, en fait, on a du mal à penser à long terme, et on s'était appuyé sur le fameux déficit de 55 milliards, qui était en fait un déficit créé, et qui est un déficit volontaire, vu qu'il était lié à la période Covid. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si on venait nous expliquer qu'en cas de nouvelle pandémie ou en cas de guerre, l'économie serait la même que lorsqu'il n'y a pas de pandémie et qu'il n'y a pas de guerre. Ça marche pas comme ça, en fait. Ben, c'est un peu ce qu'on est en train de nous dire. On se retrouve, en fait, là, comme pour la caisse des retraites, en fait, en face d'une vision du monde et du travail qui est purement politique, comme je le disais. Le choix de mettre dans la merde des personnes qui perdent leur emploi est pris par des politiques qui voient le chômage comme un moment inadmissible. Alors qu'il est, et ce depuis sa création, hein, parce que c'est même écrit dans les statuts de l'UNEDIC, un droit au sens assurantiel. C'est-à-dire que le chômage... Il n'y a pas de morale derrière le chômage. C'est-à-dire que vous êtes au chômage, vous avez le droit à une assurance qui couvre vos besoins. C'est pas autre chose que ça, en fait. C'est ça, le chômage. Il n'y a pas derrière, théoriquement, de morale. Au sens moraliste des choses. En pressant, en fait, les chômeurs par le fait de diminuer leurs revenus, les dirigeants et le MEDEF s'assurent d'avoir plus de main-d'œuvre possible, le plus de main-d'œuvre possible, y compris sur des métiers qui sont délaissés ou pénibles. D'ailleurs, il y a un dirigeant de l'industrie de la construction qui disait qu'il était très content de la réforme, la dernière réforme qui était passée, parce qu'il n'a jamais eu autant de lettres pour venir travailler sur les chantiers. Donc on voit bien qu'il y a quand même un lien. C'est une pression à l'emploi qui s'apparente en fait clairement à du chantage. Parce que c'est ni plus ni moins que ce qui a été mis en place. Donc on pourrait quand même repenser l'UNEDIC et à quoi ça sert. Il faut se souvenir que cet excédent existe alors que les entreprises, aujourd'hui, elle ne paie pas l'ensemble des cotisations chômage du fait des divers cadeaux faits par l'État. On est donc là aussi en droit de se dire que cet excédent aurait pu être bah, finalement plus important encore si on payait tout ce qui était dû à l'UNEDIC. Et c'est là qu'il nous faut repenser ce qu'est une période de chômage. En dehors du temps de repos qu'elle peut représenter pour la personne concernée, il faut la repenser totalement comme étant un moment de la vie qui devrait permettre des virages et des changements. Déjà, les caisses sont donc, et on le sait maintenant, suffisamment pleines pour permettre que les cotisations retraite soient alignées sur les cotisations générales. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes au chômage, je vous rappelle que un trimestre vaut un demi-trimestre. Et il faut donc deux trimestres pour faire un. Et en fait, ça, c'était dit, ça a été dit parce qu'on disait, mais les caisses de l'UNEDIC ne permettent pas de payer pleinement la retraite des chômeurs. Sauf qu'en fait, ben, si, on a la preuve que si. Et ça permettrait, en fait, que les personnes au chômage ne perdent finalement pas de trimestres pour la fin de leur vie. Et qu'on n'arrive pas, quand on a fait 2 ans de chômage, avec 4 trimestres manquants. Vous voyez, par exemple. Ensuite, il est donc possible de garantir aussi une couverture plus importante de l'assurance chômage avec pour but de permettre aux salariés de pouvoir prendre le temps de choisir l'emploi qui leur convient et non d'être mis sous pression et notamment par une pression financière. On va rappeler quand même, enfin je vais le rappeler surtout parce que c'est moi qui parle, je vais rappeler quand même que le chômage aujourd'hui, la pression à l'emploi, ça concerne en particulier et en grande particularité les femmes qui sont mères célibataires. Il y a une étude qui a été faite et qui démontre que les personnes qui sont le plus mises sous pression pour retrouver un emploi rapidement, quel qu'il soit, c'est les mères célibataires. Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on l'oublie souvent, mais quasiment un ex sur deux ne paye pas sa pension alimentaire. Donc ça complexifie la vie de ces personnes. Et la deuxième, c'est que souvent, elles sont sur des emplois précaires et mal payés. Et que quand on vous dit, ben, vous étiez au SMIC et maintenant vous êtes à moins de 25%, moins 25% du SMIC, il y a comme un souci pour finir les fins de mois. Voilà. Mais on peut aussi, du coup, imaginer transformer cette période en période d'apprentissage d'une nouvelle activité, d'un nouveau métier. Alors ça existe déjà aujourd'hui, mais sauf qu'aujourd'hui, ben, c'est au bon vouloir du patronat, en fait. On pourrait inverser les choses. C'est-à-dire que ce soit au bon vouloir et aux envies des personnes concernées. Aujourd'hui, cela n'est en fait pas vraiment possible du fait aussi de la faiblesse des pensions. Parce que comme, enfin, je dis pension, mais c'est pas des pensions de retraite, pardon. Mais de la faiblesse de l'indemnisation chômage. Bah oui, parce qu'en fait, finalement, c'est facile pour un cadre qui va perdre son emploi et perdre 25%, qui touchait, on va dire, 5-6 000 euros par mois et qui va passer à 4 000, de se dire, j'ai le temps de me reconvertir. C'est beaucoup plus difficile, comme je disais, pour une mère célibataire avec 2 enfants qui se retrouve en dessous du SMIC. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même logique qui se met en place. En gros, on le voit, en fait, en utilisant les excédents pour aller vers les chômeurs, les verser aux chômeurs, on aurait la possibilité d'inverser le rapport de force et de remettre les salariés au centre des choses plutôt que le patronat. On comprend donc bien vite pourquoi l'idéologie dominante a fait diminuer les pensions. Parce que le but, c'était pas qu'on nous redonne du pouvoir. Hein, faut pas déconner quand même. Et du coup, bah, ça m'a fait penser à la réforme des retraites, toute cette histoire-là. Parce que on sentait toujours le même ministre, hein, Monsieur Attal, pas très à l'aise pour annoncer et commenter cet excédent. Bah oui, parce que dire il y a beaucoup de sous, c'est compliqué quand même. Et c'est logique parce que ça vient contredire en fait une bonne part de l'argumentaire sur les retraites. Si l'emploi est en hausse et que les fluctuations monétaires permettent un excédent, comment ne pas percuter que le fameux trou qui imposerait la réforme des retraites, qui fait partie, donc je vous rappelle qu'il y a 108 scénarios et on a pris le pire pour nous expliquer qu'il allait y avoir un trou énorme qui oblige à faire cette réforme des retraites, bah comment ne pas voir que bah finalement ça va pas exister, ou du moins ça va être beaucoup moins haut que ce qui était annoncé. Bah oui, parce que si l'UNEDIC fait de l'excédent, il y a de grandes chances que les caisses de retraite aussi. Parce que comme c'est le même type de cotisation sur la même chose, c'est-à-dire sur les salaires, bah il y a pas de raison qu'il y en ait une qui monte et l'autre pas. Vous voyez, c'est juste mathématique, hein. C'est pas magique. Voilà. Et oui, parce que l'UNEDIC, c'est à peu de choses près le même système de gestion que les caisses de retraite. C'est fonctionné au même endroit. Donc il y a donc quand même des grandes chances pour que dans les années à venir, compte tenu du décalage, parce que la différence c'est que les caisses de retraite, il y a un léger décalage, le décalage de perception des cotisations, on va nous annoncer finalement que bah, les caisses de retraite, elles sont excédentaires ou stables. Alors, je vous rassure, hein, à ce moment-là, comme ce sera sûrement dans 2 ans, et si la réforme est malheureusement passée, hein, si on n'a pas réussi à la faire tomber, eh ben, en fait, on nous expliquera que ce sera grâce à l'allongement du nombre des années de travail. Sauf que c'est faux. Parce que évidemment, ceux qui portent la réforme actuelle, ils affirmeront ça, mais sauf qu'en fait, on sait que c'est faux, parce que c'est déjà le cas aujourd'hui, cette remontée dans les caisses. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit lié à la future réforme. C'est un petit peu comme si vous m'expliquiez, comme ça, que d'un seul coup, s'il n'y a plus de sécheresse, c'est parce qu'on a fait un plan eau qu'on mettra en place en 4 ans. Vous voyez ? Non, c'est peut-être qu'il y a plus, un peu plus. Ouais, c'est peut-être plus ça. Voilà. Là aussi, en fait, il y a de quoi se poser notre réflexion et constater que non. La case des retraites, elle ne sert pas plus que la case du système d'assurance chômage d'un point de vue financier. Et qu'il s'agit bien, dans les deux cas, d'une vision purement idéologique de la société et finalement d'un mépris des gens qui travaillent. Parce que c'est ça qu'il y a derrière concrètement. C'est qu'en gros, on ne veut pas nous laisser du temps, qu'on soit au chômage ou à la retraite, on ne veut pas nous laisser ce temps. On veut qu'on soit uniquement des outils productifs et on veut que nous soyons réduits à notre plus simple appareil, c'est-à-dire la production pour le gain de quelques-uns. Et comme on l'a déjà dit dans la causerie, et plus d'une fois, il faut se méfier des arguments économiques. Car l'économie, c'est pas une science, hein. On va le rappeler, hein. L'économie, c'est de l'estimation. Les mathématiques, c'est une science, l'économie, c'en est pas une. Par contre, c'est un outil terrible, l'économie, pour faire peur et faire passer les pires dérives. Et on voit bien aujourd'hui, dans le climat dans lequel on se trouve, avec ce qu'on peut voir posé sur la table, eh ben qu'en fait, on est en face de gens qui nous font peur avec des chiffres qu'on a du mal à palper, parce que moi, j'ai du mal à voir ce que ça fait 10 milliards, hein. Bon, déjà, quand on commence à dépasser les 10 000 euros, j'ai du mal à voir. Alors, 10 milliards, j'ai un peu du mal aussi. Encore plus, du coup. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'on est en face de gens qui brassent de gros chiffres pour essayer de nous inquiéter, pour nous donner l'impression que tout va s'effondrer. Mais il faut les relativiser, il faut les remettre en perspective. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que la vision du travail, la vision du temps de repos, la vision de ce que l'on doit faire pour être, entre guillemets, viable dans la société, ce sont que des visions politique et à aucun moment des visions économiques. Et c'est bien la façon dont politiquement on pose les choses qui après met l'économie au service du politique et pas l'inverse. Donc c'est tout ça que j'avais envie de souligner ce soir et puis dire que bah, finalement, si on arrive à faire des excédents, c'est peut-être que ça va pas si mal que ça et que bah, ça serait peut-être temps un petit peu de se dire que bah, on nous prend un petit peu pour des abrutis. Voilà. On passe à la musique ?
Allez.
Ici tout le monde s'est barré, ils ont triplé les loyers. Le quartier a trop géchant, les vieux troquets sont tous fermés. Tout est à vendre sur Comparis, un prix qui te pousserait au vice. Avant les poubelles s'entassaient, maintenant c'est des panneaux de police. Des barres de merde ou sirotées, cocktail à 25 balles. Et dans ma rue de l'autre côté, les ambulances tournent en spirale. Ils ont remplacé les OD par des comas idylliques. De fils de bourges encanaillés qui tiennent pas leur barbiturique. Ça claque la thune en terrasse, c'est le temps béni des colonies. Sont découverts où se mettent la race en chiant sur notre géographie. Boutique à trois, t-shirt et demi, slogan pété, pseudo-woke. Release party tous les jeudis, sponsorisé par Spritz et Coke. Ils foutent bien de nos sorts merdiques pendant le restant de l'année. Ils apprécient côté exotique, l'odeur de pisse sur nos pavés. Ils parlent de démarches inclusives, mais leurs tables sont réservées. On crache dans leurs apéritifs, leurs pop-up stores, leurs cafés. Des gens très fiers de leur vitrine, où tu peux te payer leur tête. Ça gentrifie même les latrines, du moment que ça enfle les recettes. On a les artistes qu'on mérite, j'fais du recel de météores. Cette ville un mirage que je déplore, moi je veux moins de poulet, plus de frites. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place. Et puis des fois qu'on voit rouge, ce sera une guerre de classe. Ils pensaient nettoyer le quartier mais la crasse est tenace. On a ralenti le processus, leur conquête de l'espace. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place. Et puis des fois qu'on voit rouge, ce sera une guerre de classe. On s'est fait tèche et puis retèche, les bourgeois nous remplacent. C'est dans leur sourire colgate qu'on va tailler au schlass. Crise d'angoisse contre maître, ça prend des mesures en bas de l'immeuble. Expulsion, avis d'enquête, ça fait quoi de faire partie des meubles. De la bière tiède dans nos canettes, on connaît pas vos chansonnettes. Gardez vos brunchs, vos planchettes, on bouffe pas dans les mêmes assiettes. Des bars, lounge, des coffee shops pour Marc-Antoine et Pénélope. Microbrasserie, open space, et nous c'est le trottoir qu'on nous laisse. Avant ils étaient en petit nombre, ils voudraient changer le code postal quand un toxico les encombre. Panique totale, ils copieraient même nos ratures car ils aiment ridiculiser. Savent pas comment tiennent les murs, leur culture, une pièce rapportée. J'invente que dalle et tu sais quoi, on fait partie des oubliés. Quand ils traîneront en bas de chez toi, feront doubler le prix de l'immobilier. Ils feront croire qu'ils sont conscients des problèmes voisinage, que tout se fait équitablement, qu'il y a jamais de copinage. Je me demande à quoi ça va ressembler quand ils auront têche tout le monde. Je te parie que là où on ira, ils nous suivront dans les deux secondes. C'est pas une road à Montier-Gare, c'est un crachat spontané. Rentrez dans vos maisons sous gare et arrêtez de nous les briser. Lausanne, je t'aime, mais t'as changé, j'ai plus confiance en tes jeux de piste. Pas besoin de m'en tenir informé, retire-moi de ta mailing list. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place. Et puis des fois qu'on voit rouge, ce sera une guerre de classe. Ils pensaient nettoyer le quartier, mais la crasse est tenace. On a ralenti le processus, leur conquête de l'espace. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place. Et puis des fois qu'on voit rouge, ce sera une guerre de classe. On s'est fait têche et puis retèche, les bourgeois nous remplacent. C'est dans leur sourire coquette qu'on va tailler au schlass.
Et c'était La Gale avec le titre 14%. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu. Et c'est La Causerie.
Oui, au centre de... c'est ça. Et c'est la voix de Clara. C'est rare, mais vous l'avez ce soir.
Voilà. ça arrive de temps en temps.
Et c'est l'occasion aussi de faire un petit coucou à Jean-Yves qui n'est pas là. Et qui a partagé ce titre. Voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et c'est le nouvel album de La Gale. Je vais y arriver, pardon. Je suis décalé du micro. Voilà. Et enfin, a priori, c'est issu de son prochain album. Et moi, je n'avais pas trop aimé le dernier. Je l'avoue. C'était pas. Voilà. Mais je trouve que là, elle revient un petit peu à ce qu'elle sait bien faire. Et maintenant, on va peut-être se demander. Est-ce qu'un bar qui reçoit que des gens qui ont bac plus 5 mais qui sont membres de trucs très très engagés, ne serait-il pas un problème aussi lorsqu'ils s'installent dans un quartier populaire dont ils chassent finalement les populos? Voilà, c'est ce qu'elle chante dans sa chanson, je trouvais ça super cool. Voilà. Bon, on continue.
Et tu voulais rendre hommage à quelqu'un?
Oui, merci. Clara, elle m'aide un peu, elle fait des relances parce que sinon je fais que parler.
Voilà.
Oui, donc du coup, je voulais rendre hommage en fait à Leiji Matsumoto. Alors, Leiji Matsumoto, ça vous parle peut-être pas, mais je vais vous faire un petit peu sa bio, vous allez comprendre qui c'est. Alors, Leiji Matsumoto, il est mort le 13 février 2023 à l'âge de 85 ans, et on l'a appris une semaine plus tard. Alors, c'est souvent comme ça dans le monde des mangas, mais me demandez pas pourquoi. Je n'en ai aucune idée, mais ça prend toujours du temps. Ce nom vous parle peut-être pas, mais il est pourtant ultra important dans le monde, donc je disais, du manga et au-delà. Alors oui, Leiji Matsumoto, c'est le créateur de sagas inoubliables. Alors en France, on le connaît sous le nom d'Albator, mais son vrai nom c'est Captain Harlock au Japon, mais aussi Galaxy Express 999. Parce que ça se dit comme ça. Queen Esmeraldas, Emeraldas, pardon, je n'arrive jamais à le dire. L'oiseau bleu, la reine du fond du temps, l'anneau des Libellungen et l'éternel Allegretto. Et j'en passe, il y en a plein d'autres. Voilà. Donc il est né le 25 janvier 1938, peu de temps avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, quand on dit ça, oui, c'est logique qu'en 38, on est peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale. Sur l'île de Kyushu, au Japon. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est l'île de Kyushu, je vais juste vous dire que c'est l'île qui abrite Nagasaki. Donc voilà, maintenant si vous avez fait un petit peu d'histoire, vous voyez où est tombée une bombe atomique, c'est là. Il est le fils d'un officier de l'armée de l'air impériale japonaise, qui fera donc la guerre, mais en reviendra dégoûté à jamais. Il dira à son fils une phrase qui lui restera, et d'ailleurs son fils va la glisser dans plusieurs de ses œuvres. Derrière les victimes, les ennemis, il y a une famille qui est dévastée. Son père d'ailleurs encouragera son fils, non pas à suivre sa carrière militaire, mais à se livrer à sa passion, le dessin. Et dans le Japon, c'était pas le truc le plus à la mode. Voilà. Dès l'âge de 9 ans, influencé par la lecture des mangas de Osamu Tezuka. Alors Osamu Tezuka, c'est un des pères du manga, hein, pour ceux qui connaissent pas. Mais aussi par les dessins animés de Disney. Il se lance dans le dessin et crée sa toute première BD. C'est le tour du pirate Bokenki. Ouais. Déjà un pirate, c'est marrant, hein, cette figure qui va revenir comme ça. À l'âge de 15 ans, il va gagner un concours de magazine qui va publier son premier manga, Les Aventures d'une Abeille. Alors, je vais faire une petite parenthèse, non, c'est pas Maya. Je vois quand je dis ça, je me dis, ah bon, il a fait Maya. Non, pas du tout, ce serait plutôt une abeille un peu interstellaire. Elle est un peu étrange, son abeille. Mais voilà, mais c'est à lire, c'est très sympa. Et donc, du coup, il est repéré à ce moment-là par Tezuka, hein, qui fera de lui son assistant. Et c'est là que sa carrière va démarrer, mais pas aussi vite qu'il aurait aimé. Alors, ces mangas, ils sont jugés soit trop engagés, soit trop sombres, et ils sont souvent refusés. Du coup, il va créer des shoujo, voilà, ça se dit comme ça. Des mangas à l'eau de rose, hein, en fait, hein, pour vivre. Mais ça va lui permettre en fait de croiser aussi son épouse Miyako Maki, qui est elle-même mangaka shoujo et qu'il épousera en 1961. Et ce mariage, il est mal vu parce que Miyako c'est une des premières femmes mangaka. C'est des premières à dessiner. Jusque-là, en fait, le manga, c'était un peu réservé aux hommes. Vous voyez. Et pire, quand il collabore avec Leiji, et ben en fait, il lui laisse la primauté de la signature. C'est-à-dire que c'est elle qui signe en premier, lui en deuxième. Et en fait, il dira d'ailleurs de son épouse, elle est plus douée que moi, mais on ne lui laisse pas la place qu'elle mérite. Voilà. Donc systématiquement, lui, il la fera signer en premier. Et je pense d'ailleurs, enfin, si vous avez l'occasion de voir aussi les dessins de son épouse, que effectivement, en dessin, elle est plus douée que lui. Ça, c'est un fait. Voilà. C'est à cette période que les mangas plus sombres de Leiji Matsumoto sont enfin publiés. Et s'ils sont souvent des récits de guerre, ils sont surtout profondément marqués par une haine de la guerre et de ce qu'elle représente. En fait, surtout de ce qu'il y a derrière, l'idéologie. D'ailleurs, assez tôt, Matsumoto va insuffler dans ses récits ce qu'il pense de ce monde. La liberté ne peut exister sans honneur et parole tenue. Les États nous divisent pour mieux permettre notre exploitation. Nous ne sommes pas entiers tant que nous ne sommes pas nous-mêmes. Voilà, c'est un peu ses mantras. Alors oui, Matsumoto, sans jamais s'en revendiquer pleinement, est plus libertaire et anarchiste qu'on ne l'imagine, quelque part. Et tous ses récits sont empreints de cette vision du monde et de cette vision des choses. Il va d'ailleurs réveiller le Japon avec une œuvre étrange et dérangeante. Et rien que le titre peut prêter à sourire, mais pourtant c'est son titre, c'est Sexaroid. Si le titre est étonnant, hein, et donc comme je disais peut prêter à sourire, il est néanmoins le manga qui va ouvrir l'univers de Matsumoto. C'est un space opéra, il y a des luttes intestines, il y a de la violence larvée, il y a de l'émancipation. Et surtout, c'est là que l'idée d'un univers complet, qui sera l'écrin de toutes ses œuvres de science-fiction, naît. D'ailleurs, certains vont l'appeler le Legiverse. C'est joli, hein ? Pas dire grand-chose, mais joli. Voilà. Donc, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, Matsumoto, c'est des œuvres plus profondes qu'il n'y paraît. Au premier abord, on peut se dire on a un space opéra, et en fait, quand on lit, ben non, il y a beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. Toutes les œuvres de Matsumoto sont en fait des réflexions philosophiques. Bien entendu, elles sont aussi des beaux moments d'aventure et d'humour. Oui, parce qu'en fait, le monsieur a de l'humour. Et tant mieux d'ailleurs. Et il dira que l'humour est l'arme qui nous reste quand plus rien n'est présent. Voilà. Et je suis assez d'accord avec lui. C'est que quand c'est désespéré, il n'y a plus qu'à rire. Il ne nous reste plus que ça. Donc Albator, hein, ou Capitaine Harlock, hein, comme c'est son vrai nom, que ce soit en manga ou en animé, c'est clairement en fait une réflexion sur la liberté et sur ce que nous faisons de nos vies. Il y dénonce pêle-mêle les politiques corrompues, le refus d'écouter les scientifiques, le rejet des artistes, la consommation comme seul horizon. Ça, c'est tout le début d'Albator, si vous le voyez. Son héros, bien que capitaine de l'Atlantis, alors je vais juste rappeler qu'en VO, c'est l'Arcadia, rien à voir avec l'Atlantis, on ne sait pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça en français. Il est dur et droit, mais il est aussi un homme bourré d'amour pour l'humanité et de compassion. Toutes ses aventures, il les vit avec Toshiro, son meilleur ami. Et Toshiro, c'est un peu son alter ego inversé. Je sais pas comment dire, mieux inversé. Et en fait, ben, Toshiro, c'est un peu la représentation de Leiji Matsumoto dans ses œuvres. Parce que Toshiro, vous allez le retrouver dans plusieurs œuvres de Matsumoto. Albator incarne ce que Matsumoto voyait comme idéal. L'honneur, le fait de se battre par conviction, la capacité à dépasser les idées reçues, l'aide et la compassion en prime et en première intention. Ça, c'est Albator. Si vous regardez Albator ou si vous lisez Albator, ben, vous verrez tout ça. Et c'est très très bien exprimé, hein. Je tiens à le dire quand même. Voilà. Je vais juste raconter un tout petit passage d'Albator. Mais à un moment donné, il peut buter tous les méchants, mais il décide d'arrêter de tirer parce qu'ils se sont réfugiés dans une pouponnière où il y a des enfants. Et on ne tue pas les enfants. Voilà. C'est juste un exemple de cette philosophie. Donc, très vite, hein, il va créer d'ailleurs un alter ego Albator qui s'appelle Emeralda. Car pour lui, en fait, une femme est l'égale de l'homme, d'un homme, et surtout, il voulait pas que son œuvre s'inscrive dans le virilisme de son époque. C'est-à-dire que ça le, voilà. Et il y a même des gens qui disent que, bah, en fait, au départ, il voulait faire une femme. Parce que d'ailleurs, si vous regardez les dessins de Matsumoto, ce qu'il y a de marrant, c'est que tous les hommes sont petits, trapus et un peu vénères, on va dire, et pas très beaux. Et toutes les femmes sont très longilignes, très belles, ont des courbes extrêmement, enfin des formes extrêmement éthérées. Et ce qui est marrant, c'est qu'Albator, c'est le seul homme qui est dessiné comme une femme chez Matsumoto. Si vous regardez, voilà, je vous invite à acheter un œil. Ouais, c'est pas mal. Donc dans Galaxy Express 999 ou 999, j'arrive jamais. Voilà, c'est en fait la notion de mortalité qu'il va explorer. Et si nous devenions nous tous immortels? Est-ce que ce serait une solution? Est-ce que cela ne sous-entendrait pas en... Qu'est-ce que cela sous-entendrait en termes de temps qui passe? Parce que finalement, on profiterait du temps qui passe, parce que si on sait qu'on en a plein, vous voyez. Et nos émotions, en fait, ne sont-elles pas finalement le fruit, en fait, de notre mort à venir? Est-ce que finalement, on ne ressent pas les choses parce qu'on sait qu'un jour, on les ressentira plus, parce qu'on sera mort? Ne confondons-nous pas la beauté avec la liberté? Ouais, ça, c'est une vraiment bonne question, hein, ça. Est-ce que, voilà. Et d'ailleurs, il y a une phrase célèbre, hein, dans son manga, dans Galaxy Express 999, qui est une phrase célèbre qui dit: il ne suffit pas qu'un lieu soit fleuri et que des oiseaux y chantent pour que ce soit le paradis. Intéressante cette phrase, quand même. Voilà. Dans La Reine du fond des temps, il continue à opposer l'humanité à ses désirs. En faisant, en fait, incarner l'immortalité d'une reine robotisée depuis de 1000 ans, qui décide finalement d'envahir la Terre, mais en fait, elle se retrouve à avoir des sentiments, et à voir ses sentiments se réveiller au contact des humains. Et ça, en fait, bah, ça va la perturber, cette reine froide qui a déjà 1000 ans, mais qui s'ennuie finalement dans cette immortalité sans fin. Dans une œuvre en fait plus mythologique, hein, comme L'Oiseau Bleu, il va adapter la pièce de théâtre du prix Nobel de littérature, Maurice, et là j'aurais pas dû l'écrire comme ça parce que je ne sais pas le dire, Maurice Maeterlinck, je pense que ça se dit comme ça, il est belge, hein. Mais en fait c'est surtout l'occasion pour lui de parler de l'enfance, de la peur de perdre ses proches, de la maladie et de l'acceptation de l'inéluctable sans être pour autant pessimiste ou nihiliste. Je renvoie juste à ce que je disais au début, donc Matsumoto il est né sur l'île de Kaiju et il est né donc à côté de Nagasaki, ça laisse des traces, voilà. Et en fait finalement quand les Daft Punk vont venir le chercher pour créer un clip, hein, et lui dire est-ce que tu pourrais faire un clip pour nous, alors Matsumoto il était à la fin de sa carrière, puis il dit ouais ça a l'air cool, puis il aime bien la musique des Daft Punk, parce que Matsumoto c'est un mec curieux et il aimait bien les Daft Punk vraiment. Il leur dit ouais ok, ben, mais plutôt que de faire un clip on pourrait peut-être faire une histoire sur tout l'album. Ça peut être sympa aussi. C'est là que va naître un film, hein, qui s'appelle Interstellar 5555 ou 5555, parce que ça veut dire un truc, mais je l'ai oublié de le noter. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Et il ne retrouve rien de mieux, finalement, dans ce film, que de poser une critique acerbe de l'industrie musicale, qui passe son temps à viser les disques d'or plutôt que d'aider à créer de la musique, et qui ne cesse de maltraiter et modifier les artistes. Bon, bah, quand je vous dis que Matsumoto, il n'arrive pas à rester neutre, c'est encore un bon exemple. Il faut savoir que les Daft Punk étaient très contents, hein, du résultat, parce qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Et d'ailleurs, il y a Thomas Bangalter qui en parlait et qui disait il était étonné que les discussions qu'ils avaient eues avec Matsumoto aient donné, finalement, il avait transformé les discussions qu'ils avaient eues en film. C'est-à-dire sur l'industrie musicale, sur le côté obligé de faire certaines choses, sur le fait qu'on ne laisse pas les artistes vraiment libres, tout ça, voilà. Et c'est vrai, quand vous regardez Interstellar 5555, vous avez vraiment ce truc-là, parce que c'est quand même un groupe extraterrestre qui est enlevé pour être peint en humain, transformé en humain pour pouvoir faire des disques d'or sur la Terre. Voilà, ça paraît farfelu comme ça, mais quand on y réfléchit, ça ressemble à d'autres trucs qui peuvent exister vraiment aujourd'hui. Donc il faut vraiment revenir à l'œuvre. Moi, étrangement, moi, je pense que les héroïnes et les héros de Matsumoto sont capables, en fait, de laisser une trace indélébile dans nos vies, de nous faire réfléchir et penser autrement. Ils ne sont jamais parfaits, jamais idéaux, jamais autre chose que ce qu'ils choisissent finalement d'être. Matsumoto, il portait un bonnet tout le temps orné du symbole pirate, le Jolly Roger, car pour lui, ce symbole était le symbole de la liberté. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce symbole est aussi le drapeau d'Albator et d'Emeralda. C'est-à-dire que les deux ont comme drapeau le Jolly Roger. Parce que pour Matsumoto, c'était aussi quelque chose de très fort, c'est l'abolition des frontières. C'est le fait qu'on n'est pas avant tout japonais, avant tout français, avant tout, on est humain. Et ça paraît bête, mais dans notre époque, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui écrit des choses comme ça, quand même. Donc toute son œuvre, en fait, est une sorte de recherche d'une sorte de nouveau Libertalia. Vous savez, Libertalia, c'était ce lieu mythique qui aurait été fondé par les pirates au XVIIe siècle et où la liberté existait vraiment. Voilà. Toute son œuvre, c'est ça. Mais je crois qu'on peut aussi résumer ses aspirations à une phrase dite finalement par un de ses héros. Alors, je vais le dire en français, Albator. Et en fait, Albator, il dit « Les enfants changeront tout quand ils seront grands. Je les y aiderai de toutes mes forces, même si je dois y laisser la vie. » C'est beau quand même comme phrase, quand on y réfléchit. C'est se dévouer à l'avenir de l'humanité. C'est quand même pas mal. Voilà. Je sais que pour beaucoup, l'image de Leiji Matsumoto est réduite au Club Dorothée et à Albator dans les années 80-90. Alors c'est oublié que l'œuvre a été quand même un peu beaucoup massacrée à l'époque, vu que des épisodes ont été coupés ou censurés car jugés trop politiques ou trop violents. Voilà, donc vous n'avez pas la... Par exemple, si vous avez regardé Albator 78, vous n'avez pas la fin. Il manque les trois derniers épisodes. C'est dommage parce que c'est quand même la fin qui fait la boucle philosophique de tout le dessin animé. Donc c'est un peu couillon. Donc, et aussi, les doublages n'étaient pas toujours fameux. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui étaient transformés. Et ce qui fait que bah, parfois, les dialogues avaient l'air creux alors qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus profonds dans la version japonaise. Et donc moi, je vous invite, hein, si vous le pouvez, de vous replonger dans les versions japonaises des œuvres de Matsumoto. Et j'espère qu'un jour, on aura d'ailleurs des rééditions dignes de son nom, des mangas et des animés de l'immense Leiji Matsumoto. Redécouvrir l'œuvre de Leiji Matsumoto, c'est se plonger finalement dans une œuvre pop philosophique, l'une des plus complètes et d'une densité rare. Profondément libertaire, profondément humaniste, c'est finalement une ode à l'amour de l'humanité. Donc vraiment, je vous invite vraiment à aller vous replonger dans ses œuvres. Et pourquoi pas, faites-nous un retour si vous avez aimé ce que fait Leiji Matsumoto. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour dans l'espace en musique. Et vous êtes bien dans la causerie, même si vous êtes allé faire un tour à bord du Galaxy Express 999-999. Et oui, c'était le Love Theme venu du Galaxy Express 999 de Osamu Shoji, ouais, parce que Clara m'a dit il est hors de question que je prononce ce nom-là. Dans ce cas-là, je plaisante. Voilà. Alors oui, je vous parlais donc de Leiji Matsumoto juste avant la couverture, pas du tout, la coupure, c'est mieux parce que la couverture c'est là où on va aller après pour dormir. Et en fait, j'ai oublié de préciser dans ma chronique et je m'en rends compte qu'en fait Leiji Matsumoto, il était aussi très très fan de musique et que toutes ses œuvres animées, tous les dessins animés comme on dit en France ou les animés comme on dit normalement, en fait, sont accompagnés de musique extrêmement bien faite et généralement orchestrale. Alors celle que vous venez d'entendre était très électronique parce qu'elle date des années fin des années 80, mais en fait il y a aussi des œuvres avec des orchestres, voilà, et puis vraiment des très très belles choses. Donc je vous invite aussi à aller réécouter les musiques en lien avec l'œuvre de Leiji Matsumoto. Et donc pour continuer, on va faire quelques brèves quand même. Donc on va commencer avec le mardi 28, alors vous m'excuserez parce que je vais zapper d'un truc à l'autre. Donc le mardi 28, il y a la projection du film La Sociale, en soutien à la caisse de grève, c'est organisé par la CGT de la ville de Lyon. Alors le film La Sociale, ça raconte l'histoire de la sécurité sociale, et c'est au Palais de la Mulatière, 1 place Antonin Jutard, dans le 3e, voilà, donc vous pourrez aller voir ce film. Il y a aussi donc le même jour, donc il faudra choisir, hein, parce que c'est toujours le problème, c'est que des fois les choses se passent en même temps. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire que la projection du film La Sociale, c'était de 14h à 17h30, voilà. Et donc sinon, oui, donc mardi 28 février, et donc on a aussi Préparons la grève reconductible contre la réforme des retraites, à l'annexe de l'ECG. Alors par contre, j'ai dit que c'était en même temps, mais c'est pas vrai, parce que c'est à partir des 18h, et donc vous pouvez aller discuter de comment qu'on peut faire une grève reconductible pour casser cette réforme des retraites plutôt que de casser nos retraites. Et ça se passe donc à l'ECG, et l'ECG c'est 27 rue Salomon Reynac dans le 7e, si ma mémoire est bonne. Donc ensuite nous avons aussi une projection débat, alors c'est aussi le 28, donc là par contre faut vraiment choisir, qui est sur qui s'appelle Violence policière, le combat des familles. Donc c'est une projection débat autour des violences policières qui ont touché Cédric, Claude, Alan, Gaï et Wissam, qui sont morts après une intervention de police. Donc dans le documentaire Violence policière, le combat des familles, leurs proches confient leur deuil et demandent justice. La projection sera suivi d'un échange en présence de la réalisatrice et de Zora El Yamni, la mère de Wissam, décédée en 2012 à Clermont-Ferrand suite à une interpellation. Donc rendez-vous le 28 février au cinéma Lumière Bellecour dans le 2e. La séance débute à 18h45. Voilà. Ensuite, hop là, pardon, c'est là que je vous ai dit qu'il fallait que je jongle parce que je suis sur un agenda en deux temps, donc il faut que j'aille en mars, voilà, c'est vrai, on y est. Donc le 1er mars, il y a aussi donc de nouveau le cercle de parole politiser nos intimes, hein, qui continue, parce que on vous en avait déjà parlé, parce que c'est tous les premiers mercredis du mois, de 19h à 21h, donc c'est l'association à double sens, qui vous propose d'expérimenter les cercles de parole en partant d'une phrase, d'un extrait de texte ou d'une image sur des sujets sociaux et politiques. On expérimente ensemble le cercle de parole et d'écoute. Voilà, et donc ça a lieu dans les locaux de l'association Afocal, et c'est au 58 bis rue Sala, dans le 2e métro Bellecour, c'est juste à côté de Bellecour. Vous avez ensuite le jeudi 2 mars Lyon Info Migration, qui propose de faire une rencontre militante, parce que en fait, pour pouvoir faire tenir les actions, il faut aussi des militants et des militantes. Donc voilà, donc venez nombreux rencontrer Lyon Info Migration, et ça se passe, pardon, je vais essayer de vous retrouver le lieu, c'est au Casdal, 221 rue de Créqui dans le 3e, de 18h30 à 21h, et vous pouvez apporter à manger pour partager, donc c'est le jeudi 2 mars. D'ailleurs, le vendredi 3 mars, si le Casdal vous a plu, parce que c'est un squat autogéré, vous pouvez participer à son assemblée générale, et c'est de 18h30 à 20h30 au même endroit que ce que je viens de dire. Et sinon, il y a un truc très très intéressant le samedi 4 mars, et je dis pas ça pour relancer et gagner du temps pour ouvrir la fiche. Pas du tout, mais si. c'est vraiment très intéressant. En fait, il y a un week-end de formation à la défense numérique et à la manifaction. Ça se passe à l'illégalité. Donc, le samedi 4 mars, de 9h à 18h, il y a une formation à l'autodéfense numérique dans le milieu du militantisme. Et ça, c'est important, l'autodéfense numérique. Hein, comment je me protège de tout ce qu'on peut mettre en place pour me traquer, lire mes mails, écouter ce que je dis sur mon téléphone, tout ça. Donc, c'est hyper important et intéressant. Et on vous conseille de venir avec une clé USB d'au moins 8 gigaoctets vierge. La clé USB, pas les gigaoctets. Et dimanche 5 mars, de 13h30 à 18h, c'est une formation à la manifaction du mouvement qui est menée, enfin qui est pardon, pilotée par le mouvement Bassine Non Merci. Donc si tu souhaites participer à la prochaine manifestation de Bassine Non Merci le 24 mars dans le Poitou et que tu souhaites connaître aussi un peu mieux les tactiques contre le gaz lacrymogène pour les réutiliser dans ton mouvement personnel à toi que tu fais tout seul, non que tu fais avec d'autres évidemment, mais dans d'autres mouvements, eh bien tu peux venir à cette formation. Et donc ça se passe à l'illégalité les deux jours, c'est 6 rue de l'égalité, 6900 Villeurbanne, et si tu sais pas où c'est pas très loin de Cusset. Voilà, pas très loin du métro Cusset. Ah là, et on a presque fini, je vous jure c'est vrai. Mais il y a aussi, et oui c'est très très dense hein, cette semaine, mais c'est bien en même temps, il y a aussi l'Observatoire international des prisons qui propose une rencontre prison-justice le 4 mars, bon parce que pourquoi ? Parce que le 4 mars c'est la journée nationale de l'Observatoire international des prisons. Donc ça tombe plutôt bien. Et donc, en fait, il propose au programme de cette journée des ateliers thématiques, sexualité en détention ou soins psychiatriques en détention, et pour finir, une table ronde sur la justice restaurative. Donc l'Observatoire international des prisons, il organise donc cette journée le 4 mars. Ça se passe de, que je dise pas de bêtises, à partir de 14h, pardon, c'est ça, à partir de 14h, avec les ateliers, ouais, les deux ateliers, donc sexualité en détention et l'autre atelier soins psychiatriques en détention à partir de 14h et à partir de 15h45, c'est une table ronde sur la justice restaurative et c'est donc à La Miette, 150 rue du 4 août 1789 à Villeurbanne. Attention, il y a une inscription obligatoire, il faut aller sur le site de l'Observatoire international des prisons où vous allez sur Hello Asso et je vais essayer de trouver ça. Oula, oui, je vais essayer de le trouver, mais ça va être compliqué. Si, vous allez sur Hello Asso et vous cherchez Rencontre Prison Justice avec des S à rencontre et à prison et vous trouverez pour vous inscrire. Voilà, c'était l'agenda de la semaine prochaine qui est plutôt bien fourni comme agenda. Et maintenant, je vais passer à un truc un petit peu moins sympa. Je vais rendre deux hommages. Alors, le premier, je vais rendre hommage en fait à Frida Sallo. Alors, pour les gens qui sont lyonnais ou qui vous la connaissiez peut-être, drag queen des nuits lyonnaises. Et vous le connaissiez peut-être lorsqu'il n'était pas en drag queen sous le prénom d'Antonin. Et il a décidé de nous quitter. Et malheureusement, il laisse beaucoup de gens dans la tristesse. Et voilà, j'avais envie de lui rendre hommage ce soir. Et il était l'un des cofondateurs d'une soirée qui s'appelait la Glam Against the Machine. Et voilà, donc vous l'avez sûrement croisé ou pas. Mais en tout cas, sachez que et beaucoup de gens l'ont pleuré cet après-midi au centre LGBT de Lyon. Et voilà, ça fait chier, c'est du gâchis, mais c'est comme ça. Et du coup, je voulais aussi avoir une pensée pour Max, qui était le cofondateur de la soirée, et lui faire un câlin virtuel pour lui dire ça va aller. Voilà. Et sinon, on va passer aussi à autre chose de pas joyeux, mais c'est un peu comme ça. C'est que il y a François Hadji Lazzaro du groupe Pigalle ou des Garçons Bouchers qui a eu lui aussi la très mauvaise idée de mourir. Il est donc mort samedi à 23h55. Ce qui fait dire à ses amis que jusqu'au bout, il aura refusé de faire quelque chose un dimanche. Voilà, c'était pour la blague, mais c'est dans l'esprit des Garçons Bouchers et de Pigalle. Et donc voilà, mais en tout cas, François Lazzaro, c'était un immense de la scène punk, ou comme on disait, punk musette, parce qu'il aimait beaucoup les instruments de type musette. Et c'est un énorme auteur, il écrivait des textes magnifiques, mais c'était aussi un acteur, parce que vous avez pu le voir dans La Cité des Enfants Perdus, Amélie Poulain et d'autres. Voilà. Et voilà, puis c'était un grand monsieur, puis bah, tous ceux qui ont pu le croiser savent qu'à quel point il était sympa et humain. Et voilà, bah, et j'avais envie de lui rendre hommage. Et pour lui rendre hommage, et bah, on va se quitter en musique. Et on va se quitter avec un titre du groupe Pigalle. Alors, j'aurais pu vous passer dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Mais bon, comme tout le monde la passe pour rendre hommage, on s'est dit quand même, il a fait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et ça donnait l'impression que c'était l'homme d'un seul tube, ce qui était dommage. Donc voilà, donc du coup, on va plutôt vous passer Pigalle. Et ça s'appelle Chez Rascal et Ronan. Et c'est un de mes titres préférés de Pigalle. Donc on va vous quitter. On va vous dire à la semaine prochaine. Et on revient la semaine prochaine pour les 10 ans de la causerie.
C'est ça.
Voilà. Bon, alors vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. C'est juste pour vous dire que la semaine prochaine, ça fera 10 ans pile. Voilà. Allez, on se quitte donc avec Pigalle et Chez Rascal et Ronan. Et on vous fait des bisous.
Ciao.
Et à la semaine prochaine. Salut.
Tu n'as plus sur toi qu'un soupul vert et tu cherches ta clope qui est sous ton nez. Moi je suis sur le pieu, nu comme un ver, à regarder ton sexe se déplacer. La lumière du salon éclaire la chambre et la flamme du briquet allume tes yeux. Et tu souffles vers le ciel, tu te cambres, tu es très belle et je me sens très vieux. Ta culotte petite boule traîne au pied du lit pour fumer, tu t'assieds sur les draps blancs. Je t'effleure juste le dos et tu souris, un sourire de chaleur tranquille et puissant. Tu te relèves comme un sort pour écraser ta clope, tu lèves tes bras. Et ton soupul s'envole. Je vois tes seins de neige en kaléidoscope. Ton ombre tendu demande son obol. J'ai chopé ton cheville et je tire un bon coup. Tu t'étales sur moi en un rire de môme. Nous sommes tête bêche, ta cuisse dans mon cou. J'ai ta fesse, la gauche, dans ma paume. Tu pivotes en silence et si doucement nos peaux s'échangent, se frottent, se croisent. J'ai maintenant ta langue qui force mes dents. Je la reçois émue, elle sent la framboise. Mes doigts courent dans ton dos, de ton cou à l'arrêt. Je ne peux m'empêcher d'avoir le premier râle. Tu me regardes heureuse et fière de ton effet. Je te sers à briser ta colonne vertébrale. Nous ne sommes qu'un être, le souffle mélangé. T'as frémi d'une épaule et mon sexe a durci. Ta langue suit mon torse et je suis terrassé. Elle descend à mon ventre et je réponds d'un cri. Je te soulève d'un coup et te mets sur le dos. Je dévore tes seins comme un repas de fête. Tu soupires en cadence et c'est le crescendo. Ta main crispée a grippé ma tête. Tu la pousses impatiente vers ton triangle d'or. Et mes mains sous tes cuisses, j'exauce ton souhait. Dans tes humidités, je lèche et je mords. Ton sexe est comme une forge et ma bouche a soufflé. Tu te redresses alors, m'entourant de tes bras. Et je sens tes cheveux qui frottent dans mon dos. Tu m'appelles doucement et tu me tires vers toi. Je te bouscule un peu et t'embrasse au kilo. Tu me pousses en douceur, je murmure, tu es belle. Tu es au-dessus de moi, tendu sur tes deux bras. Tu brilles dans mon pas, mais tu sens la cannelle. Tes yeux me dévisagent et glissent vers le bas. Il fixe mon piquet qui palpite impatient. Reptile, tu es dessus et ta bouche l'entoure. Mes mains agrippent tes cheveux en criant. Tes lèvres entre deux tours me disent des mots d'amour. Je ne veux pas tout de suite et je te tire vers moi. Nos langues se rejoignent et nos mains sont fébriles. Tu t'accroches ton fragile à ma paire de noix. Mon cou se joue habile de ton bouton fragile. Mon index en orbite autour de ton cratère. Tu t'accroupis sur moi en gémissement sourd. Tu as chopé mon sexe qui demande la guerre. Et c'est toi qui l'enfile et qui te fais l'amour. Je pilote ton bassin comme un taureau furieux. Tu resserres tes jambes. Rien ne te désarçonne, et brusquement tout sort, c'est un volcan en feu. Tu hurles ta victoire, moi aussi je ronronne. Et nous restons tendus dans un film arrêté. Puis tout doucement, nous glissons l'autre vers l'un. Nos cœurs sont en rythme, et nos mains approchées. La mort pourrait venir, ça ne serait rien. On se frotte la joue, comme deux petits chatons. J'ai tes jambes dans les miennes, bien au chaud. Je te demande inquiet, si t'as trouvé ça bon. Tu souris sans répondre, et je me sens idiot. Une bise sur le nez, elle est le signe de la fin. Tu t'étires, magnifique, te remets contre moi. Je câline de mes mains sur l'un de tes seins. Il faut dormir maintenant, le matin est déjà là.
Et on est de retour dans la causerie, et oui, en fait, on s'est trompé de titre. Mais comme on ne peut pas couper, c'est inadmissible, ce serait inadmissible de couper François Hadji Lazzaro et de couper Pigalle. Donc du coup, bah, vous venez d'entendre le titre qui s'appelle Une nuit, voilà. Mais c'est aussi un très beau titre, un très bon titre de Pigalle, et qui est d'une beauté et d'une sensualité folle. Et du coup, bah, on va vous mettre le bon titre qu'on avait annoncé, et qui est Chez Rascal et Ronan, donc toujours en hommage à François Hadji Lazzaro. Et on se retrouve toujours la semaine prochaine, et on vous fait toujours des bisous, et salut.
Ciao.
C'était chez Jimmy qu'on allait le samedi entre Bagnoles et rue des Pyrénées. Avec dans le ventre une seule envie, boire un coup et s'éclater à en crever. Y avait tous les copains qui venaient juste pour voir. Et puis tous ceux qui jouaient dans les groupes. Pour l'univers c'était leur guitare. Pendant que les autres ondulaient la croupe. Chez Rascal et Ronan c'était comme au bal. Pourquoi vous tous qui veniez là Vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot ça pue, ce qu'a été n'est plus, ça pue. Derrière le bar y avait les trois frères qui servaient les petits canons de rouge. C'est toujours les mêmes qui vidaient les verres, bordel, faut que ça bouge. Les vents passent attaquer sur la scène, minuscule. Et ça gueulait plus fort que la sono. Les seins des nanas gigotaient sous les pulls. Et même quand ça fritait, c'était réglo. Chez Rascal et Renan, c'était comme au bal. Pourquoi vous tous qui veniez là? Vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot ça pue, ce qu'a été n'est plus, ça pue. On a tous émigré rue de Buzinval, la patronne était cool. Le bar était grand, on pouvait bouger, la serveuse nous rendait ma boule. Ça se finissait très tard, en discussion d'ivrogne. Ou bien les musicaux se tapaient le bœuf. On repartait parfois avec une petite quebonne. Ou avec un beau cocard tout neuf. Chez Rascal et Renan, c'était comme au bal, pourquoi vous tous qui veniez là? Vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot ça pue, ce qu'a été n'est plus, ça pue. Puis tout a fermé, les voisins rouspétaient, restaient plus que les groupes et la musique. Alors ils sont arrivés, ceux qui attendaient à grands coups de dollars et de fric. Derrière leur bureau ils parlaient d'avenir, de rendement, de carrière, de top et de cible. Comment donc ont-ils fait pour vous convertir, vous qui étiez si incorruptible? Chez Rascal et Renan, c'était comme au bal, pourquoi vous tous qui veniez là? Vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot ça pue, ce qu'a été n'est plus, ça pue. Peut-être qu'en effet ça pouvait pas durer, mais un rêve on doit pas le casser. Je sais que vous direz que c'est démagogique, mais c'est juste un peu nostalgique. Peut-être qu'en effet ça pouvait pas durer, mais un rêve on doit pas le casser. Je sais que vous direz que c'est démagogique, mais c'est juste un peu nostalgique.